Bifurcation, bifurcation.
Bifurcation, épisode 6, juin pluvieux, moins heureux.
Bonjour, on espère que vous allez bien. Ce mois-ci, direction la ferme de Saute-Mouton, qui se trouve dans la commune de Tigy, à 40 minutes à l'est d'Orléans, dans la vallée de la Loire donc.
J'y ai passé quelques jours et Flavie, 2 semaines.
On voulait absolument rencontrer Agnès et Vincent dans notre parcours, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la ferme Saute-Mouton nous a été recommandée par plusieurs personnes. Florent, de la ferme Sapousse, y a passé 1 an et s'est formé avant leur installation en Essonne. Une amie a fait 2 mois de stage en animation pour la ferme pédagogique, et puis j'ai appris que mon papa connaissait Vincent par son milieu professionnel.
On voulait notamment voir leur approche pédagogique et les accueils de visite qu'ils proposent dans leur ferme. Parce que ça fait partie de nos envies à long terme si on s'installe. Ça nous paraît logique, étant donné que j'ai une formation d'animateur et qu'on aime accueillir et sensibiliser.
Et enfin, ils commercialisent leur production en étant présents sur 3 marchés. Ça nous permettait de découvrir ce circuit de vente côté producteur.
Bon, on met fin au suspense. On voulait découvrir tout ça, on a été servi et bien plus encore. Commençons par écouter notre échange avec eux.
Bonjour Vincent et Agnès, on a passé 1 semaine chez vous pour le moment. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors moi Vincent, j'ai 57 ans, je vis dans la ferme où je suis né pour ainsi dire. Enfin je suis pas né dans la ferme, je suis né dans un hôpital mais j'ai grandi ici. À 8 ans j'ai voulu faire le même métier que mon père, donc paysan. Et puis, j'ai fait toutes les études qu'il fallait pour ça. Je suis marié avec Agnès. Nous avons 4 enfants qui ont entre 22 et 32 ans. Et voilà, je suis agriculteur bio. Je me suis installé en 1996. J'ai commencé vraiment mon activité en 93, mais je me suis installé vraiment en 96 avec essentiellement une activité de maraîchage, mais un modèle en polyculture élevage. Que j'ai souhaité et qui est autonome.
Alors moi c'est Agnès, donc nous habitons à la ferme depuis 1999, donc presque en suivant l'installation de Vincent. Moi j'ai rejoint la structure pour faire de l'animation en 2008, et je reçois sur la partie pédagogique des enfants, des adultes, du grand public, pour leur faire découvrir ce qu'est l'agriculture biologique et quel est le fonctionnement de cette ferme, de notre ferme. Et j'ai développé aussi des thématiques, des ateliers, puisque nous avons des moutons. Je fais des ateliers sur la laine des moutons. Puisque nous sommes maraîchers, je fais des ateliers sur le maraîchage et le jardinage. Et puis, j'ai aussi pu développer toute la partie naissance des poussins et de l'œuf à la poule ou de la poule à l'œuf. Et dans ce cadre-là, j'interviens parfois, quand on me le demande, sur des couvaisons en classe aux côtés des enseignants avec les élèves. Je suis issue du monde de l'animation, puisque moi, j'ai un DUT carrière sociale. Et avant de savoir que j'allais revenir à la ferme pour ouvrir au public. En fait, c'est pas avant de savoir, c'est que nous savions en fait que la ferme, on l'ouvrirait au public à un moment ou l'autre. Vincent m'a toujours dit qu'avant tout, il était maraîcher, qu'il était agriculteur. On s'est rencontrés en faisant de l'animation, mais il était agriculteur. Et on a toujours eu la volonté et l'envie d'ouvrir la ferme et de recevoir donc du public pour faire connaître, faire découvrir ce qu'était notre métier, ce métier et surtout cette ferme.
Super, merci. Vincent, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail le lieu où on est en termes de géographie et puis la superficie de la ferme ? Quels sont aussi les marchés que tu fais, par exemple ?
Alors, le lieu où on est à 120 km au sud de Paris, à peu près, dans le Val de Loire, qui est une petite région naturelle du Loiret, à mi-chemin à peu près entre Orléans et Gien, un peu plus près d'Orléans que de Gien. Donc le Val-de-Loire, c'est l'imageur de la Loire, c'est donc des sols d'alluvion, des sols légers, assez riches quand même, assez variés aussi, ça va des sables très sableux à des limons assez forts, donc des terres un peu plus dures à travailler. J'ai moi-même sur ma ferme des types de sols assez différents, qui sont très adaptés pour la production de légumes. C'est des sols qui se réchauffent assez facilement au printemps, donc on peut avoir une production assez précoce, ce qui peut être intéressant quand on fait des légumes, qui sont faciles à travailler. L'exploitation fait 32 hectares, donc il y a 4 hectares de maraîchage, et le reste, c'est des productions qui sont destinées à l'alimentation des animaux, en céréales et en fourrage. La totalité des légumes est vendue en circuit court. D'ailleurs, la totalité de notre production, au-delà des légumes, il y en a moins maintenant, mais les agneaux, les œufs, enfin toute la production est vendue en circuit court. Donc circuit court, ça veut dire moins de deux intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Je suis présent sur 3 marchés, le plus éloigné à 20 km d'ici à La Ferté-Saint-Aubin le jeudi, le vendredi à Châteauneuf-sur-Loire à 8 km et le samedi à Tigy sur notre commune à 4 km d'ici. Le reste est vendu dans des magasins bio spécialisés, dans des restaurants, à des collègues avec qui on fait des échanges. En fait, j'ai des collègues qui sont producteurs de fruits à qui j'achète des fruits. Moi, je leur vends mes légumes. On se rend service comme ça. On est vraiment dans une logique de complémentarité plutôt que de concurrence. On travaille vraiment bien ensemble avec les collègues en bio sur le département. Il y a une forte demande. On est dans une zone d'achalandise qui est assez importante. Il y a une grosse population sur le nord de la Loire qui grossit, et du coup il y a une activité économique quand même qui tient la route, et en tout cas un nombre de consommateurs suffisamment important pour pouvoir se permettre de vivre de la vente directe.
Et avant de repasser le micro à Agnès, est-ce que tu peux développer un petit peu le côté autonomie de la ferme, ce que tu entends par là?
Alors quand je parle d'autonomie, ma démarche depuis le début, même quand j'avais un hectare, quand j'ai commencé sur un hectare avant de m'installer, c'était de me dire, il faut que, si on veut proposer l'agriculture bio comme un modèle qui soit crédible, qui soit cohérent, et qu'on puisse, dans l'idéal, multiplier à outrance, c'est-à-dire que toute l'agriculture soit en bio, il ne faut pas qu'on ait une agriculture qui soit dépendante de l'extérieur, ni de l'agriculture industrielle, ni même d'autres intrants extérieurs, si on ne veut pas épuiser non plus les ressources naturelles, si on ne veut pas... Donc en fait, le modèle que j'ai mis en place, j'ai pas vraiment inventé quelque chose, c'était le modèle qui existe depuis très longtemps, c'est la polyculture élevage en fait, hein, où les animaux produisent l'amendement, le fumier qui va nous servir à nourrir la terre. Je fais l'essentiel de mon activité et de mon chiffre d'affaires avec la production de légumes que j'ai amendé avec le fumier des animaux, et je nourris les animaux avec des fourrages et des céréales que je produis sur la ferme. Techniquement, ça fonctionne, ça fait un modèle qui tient depuis 30 ans, qui n'est pas très très performant d'un point de vue rendement, d'un point de vue efficacité économique, mais qui est vraiment résilient, qui permet vraiment de s'affranchir de tous les intrants extérieurs, hormis dans mon cas les semences que j'achète, parce que la production de semences c'est un métier à part presque, et que je veux pas prendre le risque de rater une production parce qu'il y aurait telle ou telle maladie qui serait développée sur une semence que j'aurais pas vue, parce que j'aurais raté une production de semences aussi, donc ce qui peut arriver, hein. Donc voilà, mais indépendamment de ça, aucun produit extérieur qui rentre pour la production ici.
Super intéressant, merci.
Alors Agnès, tu m'avais parlé un petit peu du lien que tu fais entre l'éducation populaire et la Confédération paysanne. Est-ce que tu veux bien détailler un petit peu ça ?
Focus, qu'est-ce que la Confédération paysanne ?
La Confédération paysanne, c'est un syndicat qui se déclare pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. La majorité des agriculteurs rencontrés dans notre parcours y sont adhérents. Il existe d'autres syndicats dans ce secteur, et notamment la FNSEA ou la Coordination rurale par exemple. Vous avez peut-être déjà entendu parler.
Au cours de ma formation à l'IUT, donc l'IUT de Tours, on aborde toute l'histoire, ou on abordait, parce que moi ça date, on abordait l'histoire de l'éducation populaire. Et donc, il y a quelques années, on m'a offert une bande dessinée d'Étienne Davodeau, Les mauvaises gens. C'est donc Les mauvaises gens, sous-titre Une histoire de militants. Et puis... En lisant cette BD, en fait, ça m'a fait remonter tous les cours qui, avouons-le, au moment où je les ai eus, m'intéressaient. Mais bon, en fait, j'ai découvert des liens avec ce que j'avais appris. Et puis, c'est aussi peut-être dans ces années-là où j'ai commencé à avoir du temps en dehors de la vie familiale, en dehors des activités qui concernent nos enfants, parce que bon, j'ai aussi été dans des associations en lien avec les activités des enfants. Eh bien, ce temps, je l'ai consacré à militer. En fait, je ne savais pas que je militais déjà un petit peu. On est à la Confédération paysanne depuis le début, depuis l'installation de Vincent. Et en fait, à la Confédération paysanne, eh bien, quand on nous raconte l'histoire de la Confédération paysanne, de la CONF, on s'aperçoit qu'il y a des liens très forts tissés entre tout ce qui est éducation populaire et confédération. Alors, je vous invite à lire la bande dessinée, hein, voilà. Et puis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je sais d'où je viens. Alors, j'ai aussi, je crois que nous avons reçu tous les deux avec Vincent une éducation aussi d'ouverture aux autres. Nous avons été sensibilisés. On est aussi génération Mitterrand avec tout ce que ça suppose d'engouement, de rêve, de découverte, puis aussi de déconvenus. Parce que bon, voilà, tout n'a pas fonctionné, loin de là. Mais nous, on a toujours milité, on continue de militer. Et ça m'a vite rattrapée quand j'ai eu du temps, parce qu'on m'a dit, t'as du temps. Il y a une association qui se monte dans le Loiret qui s'appelle l'ADAR, donc l'Association pour le Développement Agricole et l'Emploi en milieu rural. Il manque d'administrateurs et puis ce serait bien quoi que tu y ailles. Donc je me suis retrouvée à l'ADR et puis 3 ans plus tard je me suis retrouvée présidente, 6 ans plus tard je trouvais toujours pas à partir de là, parce que c'est difficile de trouver des gens en ce moment, et nous dans le monde agricole on dit souvent on n'a pas de temps pour ça, on n'a pas de temps, mais en fait faut pas oublier d'où on vient et il faut trouver du temps, et plus on est à trouver du temps, moins on a de temps à y passer. Voilà. Je crois que c'est dans nos gènes, dans nos veines. Quand vous passez chez nous, il y a toujours un petit moment où on va vous parler, la preuve de pourquoi on en est là. Il y a un truc à la conf qui s'appelle l'école paysanne, où on apprend, enfin on revoit toute cette histoire qui nous nourrit, qui nous habite et qui nous a conduit à ce que l'on est à l'heure actuelle. Voilà. Donc, lisez cette BD. Et puis, Ben Davodo, il a plein d'ouvrages qui parlent des gens. Et y en a un qui s'appelle Rural aussi. Et celui-là, c'est la chronique d'une collision politique. Donc, on a tout dit.
Merci.
Alors, on va passer sur des questions un peu plus terre à terre, c'est le cas de le dire. Est-ce que, Vincent, tu peux nous parler de ton outil préféré ? T'en utilises quelques-uns, on les a vus un peu dans la ferme. Est-ce que tu peux nous raconter le plus important pour toi ?
Alors le préféré, je ne sais pas si c'est celui que je préfère, mais je pense que c'est celui que j'utilise le plus souvent, en tout cas c'est le couteau. Parce que avec un couteau on fait plein de choses en fait. On peut nettoyer les pieds d'un mouton, on peut éplucher des légumes, alors on ne prend pas le même. on peut couper un bout de ficelle, le couteau c'est un outil qui a partout, on fait du désherbage, sachant que le désherbage c'est une grosse partie de notre activité dans la production bio. Alors j'aime bien l'objet déjà, je trouve que j'ai plein de couteaux de toutes sortes, plus ou moins utiles d'ailleurs, il y en a qui sont plus jolis que utiles. Puis il y a le couteau de tous les jours avec lequel on travaille dans les champs, qui est un couteau qui risque rien, qu'on peut perdre sans le pleurer. Mais voilà, c'est quand même un outil que j'utilise tous les jours et puis qui me permet de faire beaucoup, 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 beaucoup de choses.
On a récolté les salades hier avec un couteau, donc ça me parle. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ton légume préféré ?
Alors, mon légume préféré, je vais dire que c'est le panais. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime beaucoup ce légume. J'aime bien le manger, j'aime bien le cuisiner. C'est un légume qui est endémique, en fait. Le panais, c'est de l'angélique cultivée. L'angélique sauvage, c'est du panais. C'est du pain, enfin, ou alors l'angélique, c'est du panais sauvage, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, il a une importance aussi dans mon parcours, parce qu'en fait, quand j'ai cherché un peu à diversifier ma gamme de légumes, sur une gamme de légumes d'hiver, pour pouvoir embaucher quelqu'un toute l'année, donc avoir du travail en hiver, j'ai cherché des légumes et j'ai trouvé, entre autres, le panais, qu'on sème au mois de mai et puis qu'on récolte à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Et c'est une culture qui est assez difficile à faire, surtout difficile à faire lever. Et il s'avère que c'est quelque chose que j'ai plutôt bien réussi en général. Et je me suis retrouvé à être identifié, même auprès des collègues, comme celui qui faisait du panais. Donc j'ai fait du panais pour tout le monde. Parce que régulièrement, des gens qui essayaient, ouais, ils n'ont pas levé, ça n'a pas marché, t'as pas des panais. Donc voilà, donc en fait, je pourrais dire que ça a contribué aussi à la réussite de ce que l'on fait, parce que j'ai vendu quelques tonnes de panais depuis que je suis installé. Voilà. Après, ça reste à une petite échelle malgré tout, on est toujours sur du maraîchage, on n'est pas sur de la production légumière de plein champ. Mais voilà, j'aime tous les légumes, mais voilà, celui-là, il a une place particulière.
Merci, on est donc chez le roi du panais qui dépanne les panais.
Et toi Agnès, un outil préféré ?
Alors un outil ou des outils pédagogiques. J'en ai plusieurs qui ont été conçus ici à la ferme, fabriqués par les différents animateurs ou animatrices qui sont passés auprès de moi durant ces dernières années. Je les ai tous et toutes perdus au fur et à mesure parce qu'ils sont tous installés en maraîchage ou devenus bergers ou bergères. Donc, on a créé beaucoup d'outils qui sont encore utilisés par les enfants, par les enseignants. Et celui qui est le plus emblématique, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure sur les couvaisons, c'est peut-être un œuf énorme sur lequel on a apposé des images qui ont été prises ici, donc de ce qui se passe dans l'œuf avant l'éclosion. Alors il faut dire que j'ai appris aussi, j'ai été à la Bergerie nationale pour faire des formations au début de l'ouverture de la ferme pédagogique, ou tout au moins quand moi j'ai commencé. Et on nous a donné plein de conseils avisés. J'ai eu la chance de faire cette formation avec des personnes qui ont écrit un livre sur « Créer sa ferme pédagogique ». Donc c'était plutôt chouette. Et sortant de là, j'ai fait donc cet œuf. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui est du côté de Strasbourg, je crois, qui m'a demandé l'autorisation de faire le même support pour sa ferme pédagogique. Et quand j'ai regardé ce que c'était comme ferme, c'était un truc mais qui est bien plus gros que notre petite structure. Et je lui ai dit, bien sûr, en fait. Elle me dit, non, mais je ne voulais pas le faire sans vous demander l'autorisation de l'utiliser. Alors là, vraiment, moi, je tombais de ma chaise, et du coup j'ai mon support, et peut-être, enfin même sûrement, puisqu'elle m'a envoyé des photos, il y a ce même support qui est utilisé dans une ferme du côté de Strasbourg.
Merci. Une plante préférée ?
Alors des plantes, il y en a dans le jardin des aromatiques, ici. C'est un lieu où on envoie vraiment, on incite en fait les enseignants et les accompagnants à se rendre parce que c'est un lieu qui dégage déjà tous les arômes qu'on peut avoir avec toutes ces plantes. Et puis c'est apaisant, le jardin des aromatiques, moi je trouve, avec les enfants. Donc on a plusieurs supports qui peuvent y être installés. Il y a une plante dans ce jardin qu'on appelle l'hysope, que je ne connaissais pas avant de l'implanter chez nous. Et je dis toujours que c'est une plante qui est bonne à tout. Bonne à tout. Elle n'est pas connue, très peu connue. Donc, l'hysope est une plante de garrigue, qui rappelle le thym. En fait, qui rappelle dans ses arômes toutes les plantes qu'on peut mettre dans un bouquet garni. Et à elle seule, elle est un bouquet garni. Alors il y a cette plante qui est donc une plante qu'on peut consommer. Et puis une autre plante qu'on a ici et dont je suis un peu fière parce qu'au début ça marchait pas du tout. Alors est-ce que c'était lié aux semences ? J'en sais rien. C'est la garance. Et la garance, elle me permet de faire de la couleur rouge sur la laine et de teindre la laine grâce à sa racine. Donc en fait, quand j'implante des plantes, quand j'implante des végétaux ici, on discute avec Vincent, savoir déjà si on trouve les graines en bio. Parce qu'au départ, c'est quand même important pour nous qu'elles soient issues de l'agriculture biologique. Et puis, quand elles ont un intérêt gustatif, c'est bien, mais quand elles ont un intérêt qui peut être aussi pour l'animation, donc tout ce qui est teinture, tout ce qui est plante tinctoriale. Eh bien, j'ai fait des choix comme ça de plantes. Et dans la ferme, je connais aussi des plantes qui peuvent être utilisées pour se nourrir et qui font aussi de la teinture. Et on a notamment les pissenlits, parce que nous, ici, on laisse tout pousser, les orties, les pissenlits, les chardons un peu moins, parce que ça pique les jambes des petits-enfants. Donc, les pissenlits, c'est super, parce que les pissenlits, ça se mange, mais en plus, la racine se mange, la feuille se mange, et la fleur se mange, et la fleur, elle teint en jaune. Donc tout ce que je peux trouver qui est nouveau ici, je le garde, je me renseigne sur quel avantage ça peut avoir et quand ça peut servir en animation, c'est encore mieux.
Ok, très bien, merci.
Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à partager ?
Alors oui, sachant que ma deuxième passion dans la vie, c'est la musique. Je suis paysan, mais je fais de la musique en dehors, en amateur, et c'est vraiment... quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a deux œuvres musicales que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écoutées. C'est le concert à Cologne de Keith Jarrett. Alors, je suis tromboniste, je ne suis pas du tout pianiste, mais voilà. Et puis, un autre CD, enfin, au début, c'était même pas un CD, c'était un vinyle. C'est un concert de trois guitaristes qui s'appellent Paco de Lucia, John McLaughlin et Aldi Meola à San Francisco. C'est un concert, en fait, de ces trois guitaristes qui dépassent l'entendement. Voilà, c'est deux œuvres musicales qui pour moi, me parlent beaucoup.
À écouter, mais à la fin du podcast. Et pour clôturer cet entretien, Agnès, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient s'installer ?
Alors, un conseil, je ne sais pas si... Enfin, qui je suis, moi, pour donner des conseils. En tout cas, on s'est installé à deux. On s'est installé, même, j'ai envie de dire, à six, parce que nos enfants ont vécu avec nous cette installation, nous ont accompagnés, continuent de nous accompagner, sont là quand il y a besoin, s'ils le peuvent. Moi, ce que je dirais, c'est que si on veut faire de l'animation, si on veut ouvrir sa ferme, il faut bien réfléchir que les périodes où on ouvre la ferme, c'est les périodes où il y a le plus de travail dans les fermes, notamment en maraîchage. Et l'avantage qu'on a tous les deux avec Vincent, c'est que justement, nous sommes deux, avec un sur la partie maraîchage, parce que moi, je ne m'occupe pas du maraîchage. Une autre sur la partie pédagogique et accueil, où là, Vincent, de temps en temps, vient quand même donner un coup de tracteur, ou tout au moins passer un broyage, etc. Donc, vraiment, moi, je pense que pour réussir à ouvrir sa ferme, déjà, il faut être super motivé, et il faut être deux. Et ce qui est encore mieux, c'est d'avoir fait de l'animation avant, parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Comme on devient maraîcher, on se forme, on peut avoir la passion, on doit être passionné, mais ce qui est vraiment important, c'est de se former. Et d'ailleurs, de continuer de se former, même quand on est vieux comme nous.
Eh ben, merci à tous les deux pour votre accueil, tout ce que vous nous transmettez, et puis pour cet entretien.
Merci à vous.
Merci.
On vous raconte ces 15 jours chez eux ?
Côté accueil de public et animation, on a chacun participé à deux journées d'animation avec des classes de maternelle et des CP. Au programme, découverte de la ferme et de ses animaux. On a donc rencontré le couple dindon et dinde, le canard, les poussins et les poules. L'idée était alors de montrer les œufs aux enfants et une poule en train de couver. Au bout du chemin, c'est l'enclos des vaches que les enfants découvrent. Les volontaires pouvaient s'approcher pour leur donner du pain, directement sur la langue, qui est très longue. Ils repartaient avec un peu de bave, mais plutôt fiers d'eux. Puis on a rencontré les brebis et le bouc. Là encore, les enfants ont pu leur donner à manger, mais du grain cette fois. Dans son bain de boue, on a aperçu lardon, la truie de la ferme. L'occasion d'expliquer que le cochon se roule dans la boue pour se laver et se protéger du soleil. Les enfants ont également rencontré la famille lapin au complet. Parents et plein de petits. Pour la classe de CP, Agnès a proposé un atelier autour de la laine. Les enfants ont pu laver des morceaux et ont eu une démonstration du filage.
C'était une première pour moi. J'ai trouvé ça super de voir les enfants en pleine découverte. La rencontre avec ces animaux a aussi été l'occasion de leur faire comprendre qu'ils avaient en face d'eux des êtres vivants
Et donc que non, il ne faut pas faire semblant de leur donner des coups de pied. Ou encore que parfois, même si on a très envie de les caresser, il faut savoir prendre son mal en patience, car l'animal, lui, n'en a pas forcément envie. Un vrai apprentissage.
Côté marché.
Là encore, c'était une première. J'ai eu l'occasion d'accompagner Vincent lors de 3 matinées de marché. Le réveil sonne tôt ce matin-là. Le camion a été préparé la veille avec les produits et le matériel pour installer l'étal. À 8h, tout est en place pour accueillir les premiers clients. C'est un chouette moment de rencontre avec les clients. Certains sont des habitués et je suis témoin de la relation de confiance qui est établie entre eux et Vincent. L'ambiance est conviviale. J'ai bien apprécié cette expérience, mais comme mode de commercialisation, je m'y projette moyennement si je deviens paysanne, parce que je trouve qu'il faut une sacrée connaissance du marché pour prévoir les bonnes quantités et proposer les prix adaptés.
Côté culture maintenant.
J'ai encore appris de nouvelles choses sur la culture des légumes. Au champ, durant ces 2 semaines, on avait au programme...
des plantations. On a mis des courges en plein champ et du basilic sous la serre. 4 variétés de basilic. Genovese, qui est celui utilisé le plus souvent pour vos salades ou les pestos, mais aussi grec, thaï et citron. On a aussi fait du désherbage, tâche majeure en maraîchage comme on vous le disait dans le précédent épisode. Cette fois-ci, c'était pour des carottes, oignons et échalotes.
Dans la même idée, pour permettre aux légumes de se développer sans être trop concurrencés par les adventices, les mauvaises herbes, on a fait un binage. Vous vous souvenez peut-être, c'est ce qu'on avait fait à la ferme Sapousse avec une binette à roues, qui a une lame pour désherber entre les rangs. Sauf que cette fois-ci, c'est avec le tracteur que j'ai eu l'occasion de voir ça. On s'est alors occupé des interrangs d'endives, de carottes et de fèves. L'occasion de m'essayer à la conduite de tracteur, puisque Vincent a attelé un outil derrière son Fiat de 60 chevaux, sur lequel il peut s'asseoir pour guider un peu plus finement les lames pour biner, pendant que moi, je conduis le tracteur en essayant d'aller tout droit et sans écraser les rangs. Quelques sueurs froides plus tard, je suis contente d'avoir passé mon baptême de tracteur.
Il nous est arrivé de participer à une petite chasse aux doryphores sur les aubergines. Les doryphores, ce sont des insectes qui peuvent aussi s'attaquer aux pommes de terre. Ça fait des larves rouges plus ou moins grosses. Pour lutter, il faut régulièrement les récolter pour les retirer des légumes et éviter leur multiplication.
Ça m'a rassurée de le faire et de le voir faire, car il suffit de prendre un seau et de secouer la plante pour les faire tomber, alors que je m'attendais à une manipulation beaucoup plus longue.
Et enfin, les mercredis, c'était récolte, pour préparer les marchés de la semaine. Courgettes, petits pois, fèves, oignons, échalotes, ail et aromates diverses. Persil, thym, ciboulaille, et les crises, livèche et origan.
Pour finir concernant cette expérience, je voulais aussi vous parler d'un petit détail, la météo. Parce que la pluie a bercé mes nuits en camion, mais surtout parce que ça a été l'occasion de voir l'impact qu'elle pouvait avoir sur le maraîchage et d'en discuter avec les équipes de la ferme. Pour exemple, le printemps a été humide et ça a favorisé la croissance rapide des adventices. Ça a aussi impacté le travail dans les champs puisqu'on ne peut pas passer avec le tracteur ou des outils qui risquent de trop tasser le sol humide. Me voilà armée de nouvelles connaissances pour la suite de la formation. Merci à Vincent et Agnès pour leur accueil et leur sens de la transmission, ainsi qu'aux équipes de la ferme Saute-Mouton.
Ah, et avant de tourner cette page à la ferme, voici les sons de notre rencontre surprise avec une famille de hiboux, moyen duc, qui avait élu domicile dans les arbres de la ferme.
Les petits cris aigus que vous entendez, ce sont les petits, et les autres, c'est le parent, qui avait l'air de me signifier de pas trop m'approcher. On a pu voir les petits, encore pleins de duvet, qui étaient sur différentes branches dans les arbres autour du nid, a priori, et le parent continue de venir les nourrir en chassant la nuit, puisque c'est un animal nocturne. On peut faire la différence entre un hibou et une chouette. Quand on les voit, le hibou a de petites oreilles et en moyen mnémotechnique, bien ça lui fait une tête en forme de H comme hibou.
En parallèle, nous avons également travaillé nos cours, de quoi alimenter mes propos du mois dernier, par exemple concernant la sélection des fruits. Je parlais de la grosseur des fruits et finalement, ça ne tient pas qu'à la variété sélectionnée, mais aussi aux pratiques des arboriculteurs, au maintien d'un équilibre dans la vigueur de l'arbre et la quantité de fruits, par exemple. On commence là à toucher du doigt ce qui s'appelle l'itinéraire technique.
Petit point lexique.
C'est l'ensemble des interventions nécessaires à la production d'une culture. Par exemple, pour la vigne, toutes les interventions de taille en hiver, d'irrigation, d'amendement, d'éclaircissage, de récolte et de conservation. Pour moi, il y a comme un défi, un jeu de réflexion pour mettre en adéquation mes envies, les temporalités des différentes cultures, les contraintes de chacune, les surfaces nécessaires, les rendements possibles. Je me suis donc amusé à imaginer diverses cultures à mettre ensemble. Raisins de table, petits fruits et noix, pour commencer. En partant de ça, voir quelles sont les périodes d'intervention sur chaque et procéder ensuite par ajout ou élimination. Alors je suis pas arrivé au bout de cette réflexion, mais cet exercice me motive et m'aide à me projeter avec un peu plus de détails.
Pour clôturer cet épisode de juin, voici nos recommandations culturelles du mois.
Pour ma part, je vous conseille un livre qui s'appelle « Être un chêne sous l'écorce de Quercus ». C'est écrit par Laurent Tillon. L'auteur nous raconte l'histoire supposée d'un chêne depuis sa naissance. On découvre au fil des âges de l'arbre toutes ses interactions avec son environnement, donc les autres animaux, les autres arbres, etc. C'est super cool l'idée de présenter, de personnifier un arbre et de comprendre son fonctionnement au travers de l'histoire.
Pour ma part, je vous recommande une musique qui met de bonne humeur, même en juin quand il pleut tout le temps. Il s'agit de Back on 74 du groupe Jungle.
Le mois prochain, on vous raconte notre semaine de Loire à vélo. On a passé aussi quelques jours pour le village de l'eau dans le Poitou. Et on a terminé notre mois en Anjou, chez Yann, où je suis en stage en arboriculture.
Cet épisode a été réalisé avec l'aide de Quentin, de la MJC Bobby Lapointe.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Bifurcation pour avoir quelques images et être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. Envoyez un mail à bifurcationvf@proton.me. Mi, ça s'écrit M-E.
À bientôt.